et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Comme tous les mois, nous sommes cette semaine dans un grand studio à Radio France à Paris avec de nombreux invités, une séquence live et un jeune lecteur qui vous donnera un conseil de lecture. Le festival de la BD d'Angoulême a ouvert ses portes. La librairie francophone s'associe comme chaque année à cet événement avec comme toujours de grands auteurs, des références du monde de la bande dessinée. Bonjour André Julliard.
Bonjour.
Comment allez-vous André ?
Super bien.
Bien. Bonjour Émile Bravo.
Bonjour.
Bonjour Yann.
Bonjour.
Émile, vous avez repris Spirou au temps de la guerre en Belgique aux origines du personnage, né en 1938, rappelons-le. André et Yann, vous publiez vous une BD historique qui décrypte la guerre d'Espagne et les liens avec les soviétiques de l'époque. La BD qui raconte des moments d'histoire, c'est de la transmission ou c'est de la réinterprétation ?
C'est plutôt de la transprétation. c'est exactement ça. Ouais. Oui, c'est spécial, c'est de la BD.
Émile Bravo.
Non, c'est pas mal, il a trouvé le bon mot. Mais bon, bah, moi, en ce qui me concerne, j'essaye de faire quand même de la transmission parce que je m'adresse aux enfants aussi.
Oui, aussi. Voilà. Ouais. Et André Julliard, grand spécialiste de la BD historique, vous vous transmettez depuis toujours ?
Oui, j'aime bien la bande dessinée historique et quand j'en dessine, je déteste raconter des histoires. Je veux raconter l'histoire.
Eh oui, c'est ça, l'histoire avec un grand H. On parlera de cela tous ensemble tout à l'heure. C'est un roman choc qui est arrivé à notre rédaction juste avant Noël. La comédienne Audrey Dana publie un roman confidence, une vie familiale décousue, incompréhensible pour un enfant, le roman de la souffrance et du manque d'amour. Vous allez être effarés par ce formidable livre. Nous sommes aussi en plateau avec la poétesse et écrivaine Vénus Kourigata qui vous racontera une grande histoire, celle de Marina Tsvetaeva, poète russe qui se suicidera dépassé par la vie. Et puis comme chaque mois, un jeune lecteur pour vous conseiller un livre, une jeune lectrice, Djulde, a 15 ans et elle a choisi une bande dessinée africaine en plein festival d'Angoulême.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont avec nous en multiplex, comme toujours. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Belgique depuis la librairie La Licorne à Bruxelles. En France, Mathieu Colombe est de retour. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Aix-en-Provence dans la librairie Goulard. Tout va bien ?
Tout va bien.
Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Et au Canada, Josiane Nétourneau est dans son igloo de Montréal. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie du Square. Merci d'être avec nous. Vous interviendrez bien sûr tout au long de l'émission. Bonjour Audrey Dana.
Bonjour.
On parlera de votre livre autobiographique tout à l'heure. Un récit très émouvant et incroyable à tous les sens du terme. Mais on commence toujours cette émission par une anecdote personnelle. C'est tombé sur vous. Je sais que vous êtes ravie, Audrey.
C'est maintenant qu'il faut être intéressant.
C'est ça. Donc, d'accord. Percutante et tout. Quelle histoire avez-vous choisi, Audrey
Dana ? Non, je vais raconter une petite anecdote plutôt tendre, en fait, liée à l'enfance. Autour de l'arbre généalogique, en fait, je connaissais pas mes grands-parents. C'était un sujet extrêmement tu dans notre famille. Et donc, j'avais la sensation que notre arbre généalogique avait commencé à la naissance de mes parents. Et puis, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait une grand-mère dans l'équation, mais qui habitait très très loin et donc on voyait très peu. Et puis, comme elle avait eu ma maman et qu'il n'y avait pas de papa dans l'équation, je pensais qu'elle était la Vierge Marie. Voilà.
Ah oui,
et comme je suis née du ventre de ma mère et qu'avant moi, il y avait eu deux autres filles qui elles-mêmes n'avaient pas de papa, je pensais que ma mère aussi avait ce pouvoir magique et était la Vierge Marie. Et puis du coup, j'ai longtemps espéré, moi aussi, avoir
être la Vierge Marie ou...
Non, pouvoir faire des enfants.
Oui. Vous avez enfanté, je vous rappelle, Audrey.
Oui, absolument, deux fois, et ça ne s'est pas passé par la voie du Saint-Esprit.
Voilà. Au moins, c'est clair.
Voilà.
Grande histoire familiale, hein, c'est incroyable. On en parlera tout à l'heure. Audrey Dana et dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Vénus Kourigata.
Bonjour.
Vous racontez la vie infernale de Marina Tsvetaeva, poète russe qui se suicidera en 1941 à Elabouga, dans la campagne soviétique à l'âge de 49 ans. Elle était admirée, elle était désirée, et elle finira dans un champ à gratter la terre pour trouver de la nourriture pour son fils. C'est une femme avant tout traumatisée par la répression russe.
La guerre tombe sur elle, sur ses deux filles, et son mari se bat avec les Blancs, avec l'armée blanche. Pendant ces temps, elle n'a pas vu son mari, il y avait la misère, il mangeait des épluchures de pommes de terre qu'il trouvait dans les poubelles, elle et ses filles. Puis sa petite de 3 ans, Irina, meurt de faim. Cette immense poétesse, cette immense amoureuse a été rejetée partout, par son pays, par la France quand elle est venue s'installer en France. Certains, comme Nina Berberova, disaient c'est une nymphomane. Pas du tout, elle n'était pas nymphomane. Si elle changeait tout le temps d'amant, elle prenait de nouveaux amants, c'est pour oublier sa misère.
Alors, on va y revenir, hein, parce que c'est vrai qu'elle change souvent d'amant, c'est le cas de le dire. Elle fait une grave erreur, Vénus Korigata, et c'est une erreur qui va la poursuivre toute sa vie. Elle envoie ses deux filles dans un orphelinat pour qu'elle soit bien nourrie. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Elle s'en aperçoit assez tôt. Elle va sauver l'aînée, Alia. Mais Irina ne survivra pas.
Non, parce
qu'elle fait un choix en plus.
Non, elle ne fait pas un choix. Alia était très malade. Elle faisait une méningite. Elle ramène Alia. Il fallait la sauver. Elle l'a soignée. Et au bout d'un mois, elle s'est rappelée qu'il y avait Irina, la petite Irina, un peu arriérée mentale. Elle appelle. On lui dit, elle a été enterrée avec sa robe, la même robe dans laquelle elle est venue, et elle est morte de faim, c'est simple. Ouais. À l'époque, on mourait de faim, on mourait de misère, c'est sous Staline, l'époque soviétique, j'avais déjà défriché du temps de Mandelstam.
Oui, c'est un précédent livre.
Ouais. Je connais bien cette époque, je connais la misère des poètes, leur suicide, leur misère, leur goulag, leur, voilà.
Et vous avez plongé comme ça dans le journal intime de cette femme, 750 pages, vous dites,
j'ai
pour comprendre une femme qui va enchaîner les aventures avec les hommes, même quand son mari est en exil. Et quand elle le retrouve, elle continue. Elle ne savait pas.
Non, elle ne savait pas qu'il était en vie. Elle savait pas.
Oui, non, là, à l'époque. Mais après, elle le retrouve.
Elle le retrouve.
Et elle ira quand même entretenir des relations jusqu'à aller avec le meilleur ami de son mari.
Oui, mais il n'était pas tellement un mari, ni un protecteur. Il a joué à l'étudiant toute sa vie. Il ne l'a pas protégée. Elle cherchait l'amour pour être protégée aussi. Un homme, ça protège quelque part. Donc, elle avait des liaisons avec des hommes vivants qui étaient face à elle, surtout des poètes plus misérables qu'elle encore. Elle n'a jamais cherché un homme qui serait fortuné ou qui serait aisé.
Enfin, Pasternak, Boris Pasternak, c'est un grand écrivain.
Oui, mais Pasternak, c'était par écrit. Ce qui fait que quand elle a été enceinte, certainement de son amant, Konstantin Rodzevitch, le beau garçon camarade de son mari.
Parce qu'il y en a plusieurs.
Oui, elle était enceinte de lui. D'ailleurs, l'enfant Moore ressemble à lui. Elle disait, c'est l'enfant de Pasternak. C'est comme si Pasternak l'avait engrossé par écrit. Elles se sont écrites pendant 17 ans.
Vénus, vous lui pardonnez beaucoup de choses dans le livre. Vraiment, on a l'impression que vous dites les choses quand même, mais c'est vrai que ça va assez loin parce que Serge, son mari, va accepter cette situation. Jusqu'à poster lui-même les lettres de ses amants, dont Boris Pasternak, grand écrivain à qui on doit Docteur Jivago, ça y est en passant. Et cette situation, elle est incroyable parce que cette femme, elle passe d'un homme à l'autre. Elle passe d'un écrit à l'autre, elle écrit, et vous le dites ça d'ailleurs, vous dites que d'engouement, de rupture et de poèmes écrits en 3 ans.
Elle se rattrapait en ayant en cherchant l'amour. Et l'amour contre la misère. Et tous les malheurs du monde se sont accumulés sur elle.
Et c'est vrai qu'elle est rejetée par la France. Elle arrive en France, elle vit en France, et puis elle espère qu'on la reconnaîtra. Et malheureusement, on va plus reconnaître sa prose que sa poésie. Et d'ailleurs, vous dites même Mercure de France la rejette, et vous êtes publié par les éditions Mercure de France aujourd'hui.
Voilà. Puisque
vous
Gallimard êtes... l'a rejetée. Voilà.
Et c'est votre revanche un peu, finalement, à travers elle. C'est une sorte de revanche par transmission.
De non-reconnaissance, de non-reconnaissance méritée, je dirais. Ce qui fait que j'ai fini par me prendre pour Marina Tsvetaeva. Ouais. Et quand elle se pend au grenier de ses paysans tartares, moi, à un moment donné, j'avais tellement mal au dos à force d'écrire toute la journée, je me pendais à une barre entre deux portes pour redresser mon dos.
On va voir si nos libraires ont aimé votre livre, Vénus Korigata. La France et la Belgique ont lu cet ouvrage. Déborah Damblon, en Belgique, c'est à vous.
Ben, il y a des auteurs avec lesquels on est en confiance quoi qu'ils écrivent, vous faites partie de cela pour moi. Parce qu'il faut dire, ma chère Vénus, que vous avez le talent, je trouve, de vous couler dans les personnalités fortes et de leur donner, leur redonner vie. Et votre écriture, elle est vibrante, elle nous prend par le cœur, elle nous renverse, elle nous fait vivre sans filtre le destin de ceux que vous mettez en scène. C'est puissant, c'est décoiffant, et vraiment, c'est ce que j'aime en littérature.
Merci.
Mathieu Colomb, pour la France, êtes-vous d'accord ?
Eh bien, moi, j'avoue que même si le récit à la deuxième personne m'a peu convaincu pendant au moins les trois premières lignes, j'ai rapidement révisé mon avis, hein, en fait, et on plonge directement dans cette prose acerbe, aiguë, fine et dure. Et en fait, même si l'amateur de poésie trouvera certainement son compte, hein, puisqu'on parle quand même de Marina Tsvetaeva, je peux certifier le lecteur lambda qui peut vraiment se frotter à cette biographie. Il n'y a aucun problème, ça va passer. Et ça au pire, il la lira. Ah oui, c'est magnifique.
L'autre particularité de Marina Tsvetaeva, c'est d'être distante avec les autres. Hautaine, voire agressive avec ses voisins, ses homologues, auteurs et poètes. Et donc, quand elle est dans la détresse, quand tout bascule, personne ne va l'aider.
Elle avait beaucoup d'ennemis. Mmh. Elle s'est faite beaucoup d'ennemis. Elle pouvait piquer les maris de ses copines. Je ne sais pas.
Elle était désagréable
elle
aussi.
Elle n'avait pas beaucoup de moralité. Oui. Hein. Mais il y avait un charme. Il y avait le fait qu'elle était un des plus grands poètes et le plus moderne de l'époque stalinienne.
Critiquée d'ailleurs par l'URSS de l'époque, oui, parce qu'elle déconstruit la langue. Où, on lui reproche pas mal de choses.
Où ils étaient acméistes, ils étaient symbolistes, et elle vient hacher la poésie, faire syncoper les vers. Elle était d'une liberté incroyable avec l'écriture, ce que les autres n'osaient pas. Elle n'osait même pas. Pasternak n'a pas atteint la modernité qu'elle avait.
Elle se suicide donc en 1941. Deux mois plus tard, son mari sera fusillé. Trois ans après, il meurt à la guerre, c'est son fils. Et tout est fini.
Et sa fille.
Il ne reste que les écrits.
Sa fille revient du goulag. Ouais. Elle s'entendait pas du tout avec sa grande fille. Elle revient du goulag. Elle ramasse tous ses poèmes. Et c'est grâce à Ali, à sa fille, qu'on a les poèmes de Marina Tsvetaeva.
On va écouter la BO du roman Vénus Corrigata, une petite transition parce qu'on va rendre hommage à une grande personnalité qui vient de mourir, qui est très proche de vous. Selon vous, la musique qui illustre le mieux votre livre, c'est l'Ode à la Lune de l'opéra tchèque Ruzalka de Dvorak. Vénus Corrigata, on va rendre hommage à Mai Menassa, journaliste, critique et romancière libanaise, grande personnalité au Liban. Elle vient tout juste de mourir en fait, et c'est votre sœur.
C'est ma sœur, elle a été enterrée cet après-midi dans notre village de Pcharré, là où est enterré Khalid Gibran, le poète du prophète. J'ai eu mes enfants qui m'ont raconté qu'il y avait la neige sur le cimetière, ils ont dû ouvrir un chemin pour pouvoir arriver au caveau et qu'il y avait déjà la lune dans le ciel. J'espère qu'elle peut la voir à travers la pierre, à travers la stèle.
Dynamique, avide de culture, farouchement indépendante, Mai Menassa est partie à l'âge de 80 ans et c'est tout le Liban qui est en deuil en ce moment.
Il y avait à son obsèque cet après-midi, tout le monde, même le président de la République, le Premier ministre. Ça fait trois jours qu'on parle d'elle dans tous les journaux. Elle parlait de musique classique, de peinture, de tous les festivals de poésie. Et puis, elle avait une émission à la télé magnifique où elle parlait des femmes, elle parlait de la guerre. Oui. Je n'oublierai jamais une fois, à une émission où elle avait en face d'elle un des grands chefs chiites. Elle lui a dit, vous mentez, vous êtes menteur. Les gens se sont dit, il va lui planter une balle dans la tête. Elle était courageuse.
Ouais,
elle était
très courageuse.
Une héroïne.
Et c'est pour des raisons de santé que vous n'êtes pas au Liban aujourd'hui, je tiens à le dire, parce que vous avez eu le courage de venir à cette émission. C'est très dur pour vous, c'est assez dur aussi pour nous par empathie. Merci beaucoup, Vénus
Corrigata. C'est pas le courage, vous avez toujours pensé mes blessures. Emmanuel, chaque fois que j'avais des malheurs, j'en ai eu dans ma vie.
On est allé au Liban
mais
ensemble.
J'ai eu de grandes joies aussi.
Merci Vénus Corrigata. Vous restez bien sûr avec nous. Marina Tsvetaeva, Mourira et la Bouga est paru chez Mercure de France. À suivre la comédienne Audrey Dana avec un roman autobiographique qui va vous faire sourire mais aussi vous émouvoir. Et puis les coups de gueule et coups de cœur de nos libraires. Avant cela, on écoute le nouveau titre de l'artiste et auteur camerounais Blik Bassi dans la librairie francophone.
Sogol we ma binengeli kere wongi, loyem binengeli kere wongi. Ngeni yesri yibe yo, basori nigil nibe yo. Lo
biwele ni kere wongi Onge ba biwele ni munu wongi Lo yesi ho Inyonyo ni nyo Lo yesi ho Iho ni mao Long yes we nengeli kere wongi Papire din chomo kiki pitong bimo Inge mwe mwa kibi perne ni munu wongi Inyo baby well ni bisgi wongi Hatango ngem le long Inge ni yo kiki wong Mumye abi well ni bisgi wongi Bespana din kirne ni kere wongi Ilong yesi ho Inyonyo ni nyo Ilong yesi ho Iho ni mao Ambongo kara ni me Ilong yesi ho Iho ni wongi Yesi wo Inyon di mao
Eba
Lo yesi ho Inyon yo niño Si ho di ho ni mao ata lo yesi wo di ho ni wongi long yesi wo inyon di mao
Blik Bassi avec Ooni sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Merci de nous écouter à travers le monde. Les coups de gueule ou les coups de cœur de nos libraires, c'est maintenant. On commence avec un coup de gueule au Canada, Josiane Letourneau.
Oh, je vais faire attention parce que je veux pas blesser personne, mais il y a une phrase que j'entends de temps en temps
oui.
de la part de la clientèle qui nous dit ben maintenant que c'est tranquille après les fêtes, vous devez avoir le temps de lire. Non. Non, j'aimerais quand même démystifier une idée du métier libraire, c'est que s'il y a une chose qu'on fait pas durant la journée de travail, c'est lire. Alors, on lit partout, ouais. on lit dans les transports en commun, on lit à la maison, mais on ne lit certainement pas dans la librairie pendant les heures de travail. Alors, voilà, je sais qu'on a l'air débonnaire et suave et qu'on gère tellement la transpiration pendant que nous sommes sous le poids du labeur, mais ne soyez pas trompés. On a vraiment beaucoup de travail dans les petites librairies, alors voilà.
Merci, Josiane. Un autre coup de gueule, Dominique Bressou, en Suisse.
Oui, alors moi, ça commence par une question. C'est quoi le point commun entre Harry Potter et Houellebecq ? En fait, c'est une plaie pour les libraires. Pour le premier, vous aurez des clients attendant l'ouverture de la librairie quand le soleil n'est pas encore levé. Et pour l'autre, franchement, sortir son dernier roman le 4 janvier, alors qu'on est en plein en train de se remettre du nouvel an. En fait, de mon point de vue, bien sûr, est-il absolument nécessaire de lire du Houellebecq tout frais sorti des presses ? Ou ne pourrait-on pas réfléchir au matraquage promotionnel de certains livres qui créent des besoins totalement artificiels ?
Oui, impulsif, hein, c'est ça.
Impulsif, voilà. Ça.
Les médias, ils sont pour beaucoup, admettons-le,
eh ben
hein,
oui.
quand même. Ouais. Eh oui. Mathieu Colombe, en France, un petit coup de cœur.
Oui, sur un essai qui m'a particulièrement fait plaisir quand je l'ai vu arriver, qui s'appelle « Psychologie de la connerie ». Alors, la connerie...
Très bon enchaînement, Mathieu.
Oui, j'aime beaucoup. Alors, la connerie, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est quelque chose dont on ne peut pas se séparer. On nous explique d'ailleurs dès le début hein, qu'il faut pas se faire d'illusions. De toute façon, bon, qu'on l'est, hein, on l'est tous. Il y a pas de souci, on est tous le compte quelqu'un. Ça veut faire une science de la connerie. Donc ça vous explique de manière mathématique autant que psychologique ce que c'est. Comment est-ce que ça se manifeste dans la vie ? Par exemple, quand vous regardez votre montre. Quand vous regardez votre montre pour savoir l'heure, bah vous faites une première fois par réflexe et puis vous regardez pour l'heure et vous regardez encore une deuxième fois.
Bien.
C'est un exemple, il y en a plein d'autres.
Plein d'autres.
C'est absolument magnifique, il y a de très bons textes.
Psychologie de la connerie aux éditions Sciences Humaines.
Oui.
Merci beaucoup Mathieu. Déborah Damblon en Belgique, coup de cœur ou coup de gueule ?
Allez, coup de cœur pour Soren. Soren, c'est un musicien de 58 ans. Enfin bon, il a disparu, on ne sait pas trop comment. Mais toute l'originalité de ce récit, de ce roman qui s'appelle Soren a disparu, c'est qu'on va le raconter par une centaine de témoignages, de micro-témoignages, et le personnage va se construire sous nos yeux, il va prendre forme, il va prendre des formes, et comme ça, on voit à quel point on est relatif selon qui nous regarde. C'est vraiment un très très beau roman, c'est un livre kaléidoscopique qui est en même temps léger et en même temps profond, je vous le conseille.
C'est de Véronique Biefno et de Francis Danemark, deux grands auteurs belges aux éditions Castor Astral. Merci Déborah.
Moi, c'est la fidélité que je comprends pas. Moi, je trouve ça d'un ennui mortel de coucher avec la même personne, mais toute la vie, quoi. T'en crois que tu rentres tous les soirs chez toi?
Oh, encore lui!
La librairie francophone.
S'il y avait été fort sur le parfum, Grégory, ce matin, ça sent la cocotte.
C'est un taux de testostérone incroyablement élevé. C'est toujours le cas avec des femmes comme vous.
Et c'est quoi, les femmes comme moi?
Intelligentes, puissantes. Qui gagne 4 fois mon salaire au bas mot.
Emmanuel Kérad.
Audrey Dana est dans la librairie avec ce clin d'œil à son film Sous les jupes des filles. Très bon film d'ailleurs, avec une distribution incroyable qui avait agité la critique à sa sortie. Vous avez aussi été révélée en tant qu'actrice par Claude Lelouch notamment. Et là, on va parler de votre premier roman, Audrey Dana. Un premier roman qui s'appelle Famille. Enfin, famille avec un M entre parenthèses, donc faille. C'est étonnant parce que on est d'abord amusé, puis ému, puis bouleversé, et puis on finit assommé. Votre récit est un choc absolu. J'avoue que j'ai eu du mal à le finir, Audrey, vraiment, parce que ce que vous avez vécu, si tout est autobiographique, comme vous le dites, eh bien c'est inimaginable. Mais avant d'entrer dans les détails, dans votre enfance, quel est le souvenir, le moment qui vous a le plus marqué, celui que vous n'oublierez jamais?
Il n'est pas dans le roman, c'est mon père qui cherchait à me faire apprendre une phrase par cœur, qui était une phrase de René Char, j'avais 5 ans, et donc ça n'avait aucun sens pour moi, et c'était impossible pour moi de la faire rentrer, mais il n'a pas lâché l'affaire, ça a duré longtemps, quoi, 1 heure, 2 heures peut-être, et à 5 ans c'est vraiment très très long. Jusqu'à que je répète comme un perroquet cette magnifique phrase, hein, pose ta chance, serre ton destin, va vers ton risque à te regarder, ils s'habitueront. Et c'est un grand souvenir, c'est quelque chose dont je ne peux pas oublier parce que c'était plutôt un mauvais souvenir et je me suis rendu compte très tard, beaucoup plus tard, de ce qu'il avait fait. Voilà. La graine qu'il avait plantée.
Alors vous racontez cette histoire, ce rapport avec vos parents. Votre mère qui rencontre votre père comme ça dans un cercle de jeu alors qu'elle est enceinte, elle n'a pas de père, donc il lui propose d'adopter cet enfant et de lui faire un garçon parce que c'est une fille qui est attendue, elle rêve d'un garçon, donc c'est incroyable dès le départ comme ça. Vous dites à plusieurs fois, papa c'est l'homme des allers-retours, parce que quand il va s'installer avec votre mère et que vous allez naître, vous après, hein, juste après, c'est compliqué, très vite compliqué, il y a des colères, il y a des disputes. Et la séparation est très proche.
Alors voilà, c'est en effet un roman très librement inspiré de ma vie. Je m'amuse, je fictionne, je romance, je dramatise, j'allège. Je tiens quand même à le préciser. Et en effet, mon père, il avait un problème avec l'obligation de la famille. Voilà. Donc dès qu'il était obligé, il avait plus envie d'être là. Donc ça a généré beaucoup d'allers-retours.
Et votre mère vit plutôt la nuit, elle. Elle aime la fête, le champagne et la drogue, toutes sortes de drogues. Et vous êtes une enfant pas très facile, Audrey Dana. À 7 ans, vous faites des blagues douteuses. Vous pissez sur le lit de votre frère pour faire croire que c'est lui. Vous pincez les bébés au parc pour les voir pleurer. C'est tout ce que vous écrivez, hein, faites pas la tête comme ça.
C'est vrai.
Et vous dites à la maîtresse, de toute façon, on ne me dit pas ce que je dois faire. À 7 ans. Donc vos parents sont convoqués.
Ouais, absolument. Et mon père est très content. Il se dit que ça y est, il a fait le job et que je vais m'en sortir dans ma vie. Je pense que je grandissais dans une telle absence de repères que je palliais à cette absence de repères. Et souvent, les gamins méchants, peut-être un peu agressifs, en fait, c'est des espèces d'appels au secours, je crois.
Vous êtes déjà une actrice quelque part parce que vous jouez des scènes comme ça et vous écoutez les Beatles. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the doors. Audrey Dana, vous chantez cette chanson tout le temps comme une prémonition au point d'exaspérer votre sœur qui vous dira « Tais-toi, fais l'actrice si tu as besoin que ça sorte ». Alors vous dites actrice, ça veut dire quoi? C'est exactement ce que tu fais là, sauf que tu chantes pas. Et c'est le déclic. Vous faites un pacte avec votre père.
Ouais, j'ai un antidon, je ne sais pas chanter, c'est vraiment dommage parce que sinon c'est ce que j'aurais fait, je pense. j'aime beaucoup chanter, mais vraiment, il n'y a que moi qui apprécie le son de ma voix. Du coup, quand ma sœur me fait découvrir le métier d'actrice, ça me semble absolument évident parce que apparemment, ça va être supportable pour les autres éventuellement.
Et
on
vous
espère.
Vous le dites à votre père, ça.
Et je le dis à mon père qui me dit que je pourrais être actrice si j'ai envie d'être actrice à la seule condition d'avoir mon bac d'abord.
Voilà, ouais.
Et j'ai pris ça vraiment pour une vérité absolue.
Et ça vous a tenu d'ailleurs.
Ça m'a sauvé la vie.
Oui,
je
carrément.
Crois.
On va y revenir. Là, on a ri. On va finir par être ému, on va être assommé, comme je l'ai annoncé.
Non, j'espère pas assommé.
Bah quand même un peu, malheureusement, parce qu'il y a des choses très dures qu'on va vous raconter. Avant cela, les libraires, il y en a deux qui ont lu votre roman, Audrey Dana, La Suisse et le Canada. Josiane Letourneau, pour le Canada, qu'en pensez-vous?
Ben, j'ai rapidement eu envie de prendre la narratrice dans mes bras pour la consoler, la protéger, l'empêcher de vivre une déception de plus. Je pense qu'elle a éveillé mon côté maternel. Et le roman qui s'annonçait au tout début... Un peu superficiel, il reste rien du tout. Au contraire, c'est une histoire au titre extrêmement bien choisi. Et j'ai trouvé l'écho de ça dans les failles de d'autres familles du paysage littéraire québécois. C'est ce qui fait en fait l'universalité du propos puis qui a rendu ma lecture si fluide et facile.
Dominique Bressot pour La Suisse, êtes-vous d'accord?
À moitié, oui. Enfin, j'ai dévoré ce livre, ça c'est sûr, mais j'avais vraiment une très grande impression de malaise en le terminant. Parce que, en fait, à aucun moment, il me semble y avoir des bons moments dans cette vie familiale. Et puis quand il y a de l'espoir, bah, il repose sur le père, dont on peut dire que la paternité se réveille quand même très très tard. Alors mon impression générale, c'est que ce livre, c'est aussi angoissant qu'un thriller, les criminels étant ses parents qui ont l'air d'être incapables d'aimer leurs enfants.
Voilà, la vie de nos libraires, Audrey Dana. Tout bascule le jour où vous déménagez pour une maison perdue dans la campagne agricole française. La Beauce, au sud de l'Île-de-France, vers Orléans. Une ruine que vous allez habiter avec votre fratrie et votre mère, mais sans le père. Et là, c'est la décadence. Vous vivez dans un lieu insalubre, un chantier permanent. Votre mère y organise des fêtes, soigne sa chambre, en tout cas, elle en fait une suite. Alors que vous, vous vivez comme ça dans des chambres délabrées. Elle reste couchée tout le temps. Et vous avez envie comme ça de connaître un peu sa vie, la sexualité à l'âge de 11-12 ans, la drogue aussi, enfin tout s'enchaîne très vite.
Oui, non, je suis un peu secouée forcément quand j'entends les retours, parce que c'est mon premier roman, donc je suis extrêmement perméable. Moi je crois qu'il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de lumière dans ce roman, après je pense aussi qu'il résonne chez les gens selon leur histoire. Parce que j'ai entendu évidemment des gens me dire « Ouf, ça m'a mis bord malaise » et puis d'autres me dire « C'est un geyser d'amour et c'est tellement rempli de bienveillance ». Moi, je suis reconnaissante de cette enfance complètement folle que j'ai eue. En effet, on s'est retrouvés dans cette maison en plein cœur de la Beauce, délabrée.
Mais vos parents ne s'occupent pas de vous, Audrey?
Non, mais comme
vous
beaucoup
dites être
de parents à cette
mais...
époque. Oui, mais parce que moi, je suis reconnaissante du cadeau de la vie.
Ouais.
Et puis parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on nous donne? On n'est pas content et puis on rejette tout en bloc et on passe sa vie fermée à regretter les dents serrées ou au contraire, on en fait une force. Je crois que tout ce qui arrive, c'est pour notre bien. Et il y a des enfances bien plus tragiques que la mienne.
Pourtant,
je n'ai jamais reçu de coups. Ouais. J'ai entendu « je t'aime beaucoup », surtout de la bouche de mon père, c'est vrai. J'avais une fratrie.
Par les paroles, que pas par les actes, jamais.
Bien sûr, oui, il était immature. Mais comme tellement d'hommes à l'époque... qui venaient, qui rentraient, qui sortaient, c'était les femmes qui s'occupaient de tout. Il se trouve juste que la femme qui était censée s'occuper de nous n'était pas vraiment, n'avait pas vraiment l'instinct maternel.
En tout cas, c'est la maison du chaos, vous l'écrivez ça.
Oui, absolument.
Parce qu'à un moment, votre mère, pour gagner de l'argent, pour avoir des indemnités, enfin des allocations, elle décide d'accueillir les enfants de la DAS, des services sociaux, comme on l'appelle en France, la DAS. Et là, c'est un désastre. Vous accueillez toute la misère de l'enfance. Il y a Louison, 7 ans, aux yeux emplis de tristesse, vous racontez, qui se fait violer par son père depuis qu'elle est bébé. Vous dites, comment est-il possible de faire du mal à un si petit être? Julie, 15 ans, abusée tous les week-ends par son père, sa mère et son frère. Raoul, 11 ans, sous-alimenté, déscolarisé, laissé seul comme ça par sa mère toute la journée. Jean, 15 ans, son père lui enfonçait des bâtons dans les fesses, 10 points de suture. Il ira à l'hôpital plusieurs fois. Et il y aura plus de 50 enfants, 50 dans cette détresse-là, qui passeront par votre maison.
Absolument. Alors, vous voyez, quand on parle de remercier, de reconnaissance, bien sûr, vivre dans un climat de tension, où évidemment, il y avait beaucoup de violence parce que ces enfants n'ont connu que ça, n'avaient connu que ça, donc n'étaient capables d'exprimer quasi que ça. Ça m'a ouvert le cœur et ça m'a ouvert les yeux sur le monde aussi dans lequel je vivais. Justement, j'étais un peu une peste gamine, très fille à papa, quand notre vie était un peu normale. Et cette transition m'a transformée profondément et m'a ouverte sur le monde et sur les autres. Aujourd'hui, j'ai la sensation de ne pas être quelqu'un qui a peur.
Mais c'est votre mère qui vous en apprend ça. Parce que quand vous vous plaignez, à un moment quand même, ça va très loin, vous avez failli être tué par un adolescent complètement...
Border, on va dire.
Border, oui. Enfin, ça c'est pas très français, mais déséquilibré. Mmh. Et elle appelle un petit Hotman, enfant de prostituée, qui voit sa maman se faire... depuis un placard et qui, pour 50 francs de plus, va lui aussi y passer. Enfin, tout ça, c'est abominable. Et vous êtes en révolte, vous le dites. Alors, c'est étonnant parce que la façon dont vous le racontez là, on a l'impression que finalement, vous en avez retenu des leçons, que vous excusez votre mère d'avoir été comme ça avec vous.
Mais vous savez, c'est quoi son enfance? Qu'est-ce que c'est ses blessures? Moi, je crois profondément qu'on fait avec ce qu'on a et que condamner n'est jamais la bonne solution et en tout cas, sûrement pas la voie de la guérison et d'un mieux-être. Moi, je suis maman aujourd'hui et j'aspire à élever mes enfants avec amour. Une fois, mon fils à l'âge de 11 ans m'a dit « Si tu n'avais pas eu la maman que tu as eue, tu ne serais pas la maman que tu es aujourd'hui et j'en changerais pour rien au monde. »
Vous lui en voulez ou pas à votre mère?
Non, pas du tout.
Elle est encore en vie?
Ouais, absolument. Non, j'en veux pas à ma maman parce que justement, j'ai fait la paix. Je cherche à comprendre.
Elle a lu le livre?
Elle est en train.
D'accord. Vous avez peur?
C'est toujours compliqué parce que je pense forcément que ça va la blesser et que je n'ai pas écrit ce livre pour la blesser.
Parce que vous
j'ai
êtes dur,
écrit
hein.
ce livre pour transformer, en fait.
Il y a votre père aussi qui meurt 2 ans après la naissance de votre fils et qui rêvait que vous soyez actrice. Donc il ne vous a pas vu avec Claude Lelouch dans tous ses grands rôles.
Il n'a pas eu le temps. Aucun de mes films, il m'a vu sur scène, au théâtre, il ne rêvait pas que je sois actrice, il respectait mon rêve. Mais je pense aujourd'hui que oui, j'espère qu'il serait fier de mon travail d'actrice.
Et il laisse une lettre à sa mort, vous en retranscrivez une partie. Vous permettez que je lise?
Oui.
Il reconnaît finalement que l'affection qu'il vous a portée, c'est pas exactement celle qu'il aurait aimé vous porter. En tout cas, c'est pas exactement celle-là qu'un père doit transmettre à son enfant. Et il dit « Dites sans cesse à vos enfants que vous les aimez. Prenez-les dans vos bras. Dites-leur que vous les aimez à en saturer leurs oreilles. Et si vous ne deviez faire que ça, c'est-à-dire si vous ne deviez pas mieux réussir leur éducation que moi la vôtre, alors leur reviendraient toujours, au moment de tristesse, ces mots qui parfois ramènent sur terre la jambe qui pendait déjà de l'autre côté du parapet. Là où je me trouve à présent, et où je ne suis pas du tout pressé que vous me rejoigniez, je vous regarde. Et si vous fermez les yeux, vous me verrez aussi. »
Il commence aussi cette lettre en disant qu'il a été le berger inconstant de brebis égarées. Oui, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence, mais une grande immaturité qu'on peut condamner ou tenter de comprendre.
En tout cas, vous avez essayé de comprendre.
Oui, ouais. Bien sûr.
Merci Audrey.
Avec plaisir.
Merci Audrey Dana. Merci beaucoup. Famille ou faille, comme vous voulez, est paru aux éditions des Équateurs. C'est l'un des livres les plus bouleversants que j'ai lu pour cette émission, je vous le dis Audrey. Et ça fait 12 ans que ça dure, cette émission-là, donc on en a lu des livres. Et c'est formidablement raconté, vraiment.
Merci.
Merci Audrey, merci beaucoup. La semaine prochaine, sans transition, nous serons à Port-au-Prince pour une séquence spéciale et pour le tournage de reportages avec des auteurs, des artistes aussi, que vous découvrirez cet été notamment. En ce moment, à Haïti se tient le Pape Jazz Festival. Cette semaine, le Guadeloupéen Sonny Troupé y a donné un concert. En voici un extrait en exclusivité enregistré par Radio France. Et ensuite, on se retrouve avec nos amis de la bande dessinée à l'occasion du Festival d'Angoulême.
Bien bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Chaque monde s'est mis à faire yo, on s'est porté mon œuf pour gagner.
et si la vie qu'abandonne couler. Lever mon air, aller travailler, marcher, courir, courir, rouler, 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 encore sans même parler. Pour faire des mains, pour faire tendre les mains, bébé, yeah. Pas d'avoir l'esprit égorgé. Trois précautions, bio-fosse ménager, yo. Allez crier la sonora, tout le monde qui l'a dit, mon grand monde. Gardez-nous pas tous, la vie va toujours en belle gravité. Des fois l'idée, mais qu'elle qui vide. Compressé pas, je fais jour, mais alors c'est pas fait pour temps pour décompresser. En disant nous tous, on pifre ses lumières. Oh, bailons, mais bailons, vous ensemble à nous chanter. Y'a pompé à l'eau, mais aïe.
Un avant-goût du son d'Haïti que vous découvrirez la semaine prochaine. C'était Sonny Troupé en concert au Pape Jazz Festival de Port-au-Prince avec Anne San.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Tous les mois, nous donnons la parole à un jeune entre 12 et 17 ans pour un coup de cœur littéraire, ou du moins pour un livre, quel qu'il soit. Bonjour, Dulde.
Bonjour.
Tu as 15 ans, Dulde, tu es en classe de 3e au collège Guy Moquet de Gennevilliers en France. Et donc, tu as choisi une bande dessinée, ça tombe bien, c'est le festival de la BD Angoulême. De quoi s'agit-il ?
De la BD Aïe de Bougon. C'est un livre que j'ai vraiment lu. J'ai lu tous les tomes même, pour dire. Et voilà, ça me fait penser à l'Afrique, les origines, tout ça, tout ça.
Qu'est-ce que tu as aimé dans Aïa Diopogon ? De Marguerite Aboué et Clément Aubrerie ? Les souvenirs sont bons, c'est ça ?
Oui, j'ai à peu près tout aimé chez elle. Déjà sa personnalité, parce qu'elle se démente pas envers les défauts qu'il y a de son pays.
Ouais.
Son amitié aussi avec ses copines, parce qu'elles sont très différentes. Les accents aussi qu'ils font dans la BD.
Oui, ils reproduisent les accents, ouais.
Oui. Ouais. Qu'on puisse imaginer aussi. Je trouve ça très amusant.
Aïa de Diopogon, que tu conseilles à tout le monde, donc.
Oui, je lui conseille vraiment.
Et c'est aux éditions Gallimard, il y a plusieurs volumes. Et c'est une formidable bande dessinée. On salue Marguerite Aboué, d'ailleurs, qui a réalisé cet ouvrage. Merci beaucoup, Dulde. Si comme Dulde, vous avez entre 12 et 17 ans et que vous voulez présenter un livre à l'antenne, contactez-nous via Facebook et Twitter, Emmanuel Kérad.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Émile Bravo, André Juillard, Yann sont avec nous pour cette séquence spéciale Angoulême, en plein festival de la BD. André Juillard, vous êtes un immense dessinateur, connu pour votre travail sur les récits historiques, mais aussi pour avoir repris Blake et Mortimer. Vous êtes très apprécié pour vos dessins d'une grande clarté, très précis et très fin. Et pour dessiner des épisodes de l'histoire avec un grand H, il faut être précis, André.
Oui, il vaut mieux. Enfin, après tout, non, c'est pas certain. Mais en tout cas, moi, je préfère être précis.
Ouais.
Dessiner le bon avion à la bonne époque, par exemple, ou me documenter, je trouve ça important. Ouais. Mais c'est pas non plus obligatoire.
Alors Double 7, vous l'avez réalisé avec Yann cette fois. Double 7 paru chez Dargo, qui raconte comment la guerre d'Espagne a été influencée par l'Union soviétique, qui soutenait le gouvernement républicain de Madrid face à Franco. Yann, le scénario part de là.
Oui, enfin c'est une situation très compliquée. Bon, on a déjà raconté beaucoup d'histoires dramatiques, donc c'est un peu les bisounours à côté.
Oui, c'est un peu dur aujourd'hui.
c'est un peu le terrain d'expérimentation, comme on dit souvent, de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est là où
les Allemands... Enfin, il y a eu des milliers de morts quand même. Hein.
Oui, mais ils essayent leur bombardier, toutes leurs forces de frappe sur les pauvres Espagnols, qui n'en demandaient pas autant. Mais de toute façon, la guerre d'Espagne, c'est très long. Et il y a plusieurs périodes, donc il y a 36, c'est le pouvoir, c'est les Espagnols qui se révoltent, qui essayent d'instaurer un certain une liberté, de libérer un peu les paysans, d'obtenir des droits, etc. Ça a été en 36, ils sont vite écrasés par la contre-révolte, on peut dire, des nationalistes de Franco. Deuxième période, c'est Franco qui donc triomphe, on peut dire, les Espagnols sont réduits dans des petits... ils sont à Madrid, à Barcelone, enfin bon, ils résistent. Et donc, ils comptent surtout sur l'aide, puisque les Français et les Anglais ont renoncé un peu lâchement. Ouais. Mmh. Les ont abandonnés. Donc en fait, ils comptent sur l'aide de Staline.
C'est
mais
ça.
Staline, en fait, à un moment donné, faut pas oublier qu'il a fait son pacte d'acier avec Hitler. Il n'a pas vraiment envie de se fâcher avec Hitler et de lui faire la guerre parce qu'il n'est pas prêt. Donc en fait, il ne va pas vraiment soutenir les républicains. Et donc en 36, il les laisse jusqu'au, on peut dire, in extremis se faire écraser. Et en 37, il intervient, il leur envoie des avions et des tanks. Ouais.
Alors c'est vrai que les soviétiques pillent l'Espagne en quelque sorte parce qu'il y a un échange à leur soutien militaire avec de l'or. Il réclame beaucoup d'or. Staline, il est sordide sur plusieurs plans. Cet homme-là, on le savait déjà, mais bon. Avec les Espagnols, mais aussi avec les forces militaires envoyées sur place, à qui il demande de ne pas trop s'impliquer contre l'ennemi.
Oui, parce qu'en fait, à un moment donné, il se rend compte que il y a un danger, c'est que la révolution socialiste, les communistes, triomphe en Europe et qu'il avait très peur, en fait, que s'instaure une version qui lui échappe du socialisme communisme européen. Donc, en fait, c'était très compliqué. Il envoyait du matériel, mais il disait à ses pilotes soviétiques, n'en faites pas trop, faites des beaux loopings pour épater les gens
horrible.
La presse. Mais, et ceux qui voulaient quand même se battre, puisque, en fait, on raconte une histoire qui est basée sur deux personnages, dont un pilote d'avion russe qui, lui, croit naïvement. C'est un vrai patriote, lui.
Kapoulov,
il s'appelle. Donc il faut une histoire dans toutes ces tragédies. On a deux personnages naïfs, mais qui croient à fond à leur rôle, en fait.
Et c'est vrai, André Juillard, qu'avec Kapoulov, un beau jeune militaire, comme ça, vous êtes régalé dans le dessin d'ailleurs, qui va être une victime collatérale de cette guerre. Il va découvrir ces atrocités et tomber amoureux d'une jeune femme qui, elle, incarne un mouvement féministe libertaire de l'époque, très important, qui avait une grande autorité.
Oui, alors les Mujeres Libres, les femmes libres, un mouvement très très actif. Les femmes espagnoles avaient obtenu le droit de vote, je ne sais plus, en 34, je crois. Elles avaient obtenu le droit aussi à l'avortement. Et ce sont des acquis qui n'ont pas été remis en question par Franco,
malgré
le
avec
poids
elle.
De l'Église catholique qui était derrière lui. Non, c'était des femmes admirables qui aussi se battaient à coups de fusil et de tout ce qu'elles trouvaient sous la main pour sauvegarder cette République qui, rappelons-le, avait été élue démocratiquement.
On va laisser la parole à nos libraires, direction la France, avec le commentaire de Mathieu Colombe, grand lecteur de BD. Mathieu.
Exact. Alors, j'ai bien aimé le point de vue sur la guerre d'Espagne. On sent vraiment une volonté d'aller au fond des choses. Par contre, hélas, ça fait perdre un tout petit peu de spontanéité en texte parfois. Et dans la partie très historique du texte, je pense que le lecteur le moins averti pourrait se sentir un peu dérouté. Rien de rebutant, hein, mais ça reste un tout petit peu notable. Le dessin, quant à lui, c'est du pur Juillard, donc fin, racé, élégant et contenu. Moi, je conseillerais sans hésiter cette bande dessinée à un amateur, évidemment, de bande dessinée historique.
Oui, et puis c'est un peu compliqué, donc il faut s'accrocher un peu, hein. C'est pas la BD facile. Dominique Bressoux, pour la Suisse, ça passe chez vous ou pas?
Oui. En fait, j'ai trouvé cette BD absolument passionnante, alors que, franchement, c'était pas gagné au départ. Parce que je ne connaissais rien ou très peu à la guerre d'Espagne. Mais en fait, justement, comme le rythme de cette BD est très lent, avec un décor qui met des pages et des pages à être plantées, on a le temps de comprendre, et même si parfois, du coup, les dialogues sont un peu lourds. Mais en fait, au final, c'est une excellente BD, instructive et très belle.
Il y a plein de choses dans cette bande dessinée avec des avions que dessine formidablement bien André. Je sais que c'est difficile pour les dessinateurs de BD, les avions, il y a un grand débat, il y en a qui adorent, d'autres qui détestent. Voilà, Double 7, c'est paru chez Dargaud. Émile Bravo, on va parler de votre Spirou. Vous êtes le fils d'un père émigré espagnol qui a fui la guerre d'Espagne, dites donc.
Oui, ça fait une belle transition.
Bah oui, mais j'ai vu ça, là, c'est un hasard total. Ouais.
Oui, absolument.
Et d'ailleurs, quand vous faites Spirou pendant la guerre, c'est une forme d'hommage aussi, parce que vous dites, mes parents ont vécu cette guerre-là, et j'ai envie d'aller... chercher, d'aller gratter un peu pour voir ce qui se passait en Belgique notamment.
Oui, notamment mon père. Je raconte souvent, pour résumer ça, c'est il m'a dit quand j'étais très jeune que sans Hitler et Mussolini, j'existais pas, parce qu'il est, c'est en France qu'il a rencontré ma mère. Et donc j'ai cherché, c'était à l'époque où je découvrais ce qu'était l'horreur du nazisme, toute la guerre, et j'ai cherché à comprendre comment l'inhumanité m'avait engendré. Donc depuis très longtemps, chaque fois que je rencontre des gens qui ont vécu cette période, je leur demandais comment ils l'avaient vécu, je cherchais des témoignages. Et un jour, je me suis dit, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu, d'imaginer un petit peu ce à quoi on a tous pensé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait fait nous à cette époque-là. Et j'essaie de le faire objectivement, mais vraiment honnêtement. C'est-à-dire que mon père, quand il me racontait sa guerre d'Espagne, il m'a jamais raconté d'histoire de héros, quoi. C'était vraiment de la survie, quoi. Et c'est ça qui me paraissait très intéressant à dire, quoi. C'est de survivre.
Avec Spirou, donc en 1938, vous évoquez l'humanisme nécessaire à la résistance avec ce personnage de Spirou encore enfant et avec un paysan, Anselme, qui va accueillir comme ça les enfants séparés de leur famille. Et dans les deux BD, que ce soit celle de Julia Ryan et la vôtre, on perçoit comme ça les histoires humanistes au sein de la guerre. D'abord, l'humain.
Mais oui, moi je pense que justement, par rapport à un enfant, moi je parle aussi de la construction d'un enfant, donc c'est très important, je pense, de rencontrer ce genre de personnage pendant sa vie. Je parle de moi, c'est des gens comme ça que j'ai rencontrés dans mon enfance qui m'ont aidé, quoi, à avoir de la distance et à avoir un libre arbitre, et ça c'est, voilà, quoi, je parle de ce genre de personnage parce que j'imaginais que quand on rencontre un personnage pareil pendant un drame, quel exode, quelle la guerre, ça peut justement renforcer un petit peu ce qu'on est, cet humanisme, dont vous parlez.
Mais Spirou, il doit faire ce qu'il peut avec ce qu'il a,
C'est un enfant.
Il est assez
pauvre,
voilà.
Il se construit.
Et c'est un symbole d'espoir pour la Belgique bombardée.
Bah oui, parce que je me suis dit, écoutez, à travers un personnage aussi populaire que Spirou, parler d'humanisme, ça me paraissait vraiment assez évident, quoi. Donc voilà, c'est un personnage qui au départ incarne l'humanisme. Alors autant le placer dans le pire moment pour développer comment cet humanisme peut venir à un enfant, quoi. Et c'est ça, quoi, que j'ai voulu faire.
Et le journal de Spirou et le personnage, d'ailleurs, ont été créés en même temps par Jean Dupuis, lancé en 1938 avec J.G. Robvel, le premier dessinateur du personnage de Spirou. On trouve un fantasio agaçant dans ce livre, Émile Bravo, c'est Monsieur Catastrophe, et vous laissez entendre même à la fin de ce premier volume qu'il va collaborer avec l'Allemagne nazie. Fantasio est détestable dans cette histoire, Émile.
Non, je crois pas.
Je l'ai détesté.
Mais non, mais il doit se construire, lui aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'adulte. Il est adulte, mais il n'est pas du tout construit, c'est un adolescent attardé, comme il y en a énormément
sur cette planète. Plus qu'attardé.
Et après, il faut bien comprendre, il faut replacer ça dans le contexte. Partir travailler en Allemagne en 1940, c'est pas considéré comme étant de la collaboration. Pas pour ceux qui n'ont pas, de conscience politique. Il faut vraiment déjà avoir une conscience politique et continuer le combat pour penser que travailler pour les Allemands, c'est de la collaboration. Sinon, la plupart des gens cherchaient à survivre, encore une fois. Et c'est ce qu'il veut faire, quoi, tout bêtement, mais il est un peu stupide.
300 pages pour cette histoire en 4 volumes. C'est le premier volume qui vient de sortir. Donc, vous avez mis 10 ans quand même à créer cette histoire-là.
Oui, j'en aurais mis 10 quand j'aurais terminé.
Vous n'avez pas terminé, oui. Journal d'un ingénu, c'était la première fois que vous repreniez Spirou.
Oui.
C'est impressionnant de reprendre Spirou, je suppose, parce qu'il y a Yann à côté de vous qui a collaboré à un Spirou, d'ailleurs.
Et en plus, qui a fait un Spirou qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Exact.
Donc en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est avoir deux points de vue d'auteur, quoi.
Aux sources du Z, c'était avec Morvan ?
Non, c'était le Groom Vert de Gris.
Et aux sources du Z aussi, non ?
Oui, mais j'en ai un coup de main à Morvan.
Oui, c'est ça.
C'est tout à fait pareil.
C'est impressionnant ou pas de reprendre Spirou ?
Faut pas y penser, faut foncer. Je crois que Spirou, il appartient à tout le monde. Chacun peut l'interpréter à sa façon. C'est comme Tintin, c'est un véhicule, on met des idées, des pensées. Hein. Ouais. C'est un filtre, quoi.
Mais sauf que Tintin n'a jamais été repris.
Pourquoi pas.
C'est interdit, vous savez. Alors. Bon, allez, les libraires, avec la Belgique et le Canada qui ont lu votre Spirou, Émile Bravo. On commence par qui, Émile ?
La Belgique.
La Belgique.
Parle de la Belgique.
Bah oui, Déborah Damblon, c'est à vous.
Eh ben attention, monsieur Bravo, parce que c'est une petite Belge qui a été biberonnée à Spirou avant même de savoir lire qui vous le dit. Ce que vous avez fait à notre groom national, c'est vraiment essentiel. Vraiment. Chapeau, je m'incline. Autant avec certains Merci. Personnages, on redoute la sortie d'un nouveau volume, autant vous, eh bien, je vous attends avec impatience. D'ailleurs, si vous me le permettez, je me demande ce que vous faites là, au lieu d'être tranquillement chez vous en train de travailler à la suite.
Oh bah s'il vous plaît, quand même, il fait l'émission. Laissez-le tranquille. Le Canada, Josiane Letourneau.
Ben, contrairement à Déborah, moi, je dois faire un aveu. J'ai jamais été une lectrice de Spirou. Bon, ça me donne sûrement, certainement, un regard différent. Mais j'ai trouvé d'ailleurs intéressant de voir cette période-là de l'histoire du point de vue belge, la neutralité politique qui fait écho à la volonté de Spirou de résister à l'idée de la guerre, à son imminence. Et ben, vos propos soutiennent un peu ce que je pense. J'ai l'impression qu'on nous raconte le Spirou d'avant le héros. Oui. Et ça me plaît énormément. Bref, je risque fort de lire la suite et le livre qui a précédé. En tout cas.
Merci.
Merci à vous. On va terminer avec l'avis d'André Juillard sur Spirou. Votre perception de Spirou, André ?
Ma perception de Spirou s'est arrêtée après le dernier album qu'a dessiné Franquin.
Ouais.
Et a repris avec le premier album qu'a dessiné Bravo.
Ah oui, oui. Avec Journal d'un ingénu, c'est vrai ?
Oui, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé que c'était une recréation. J'ai trouvé qu'on pouvait reprendre un personnage comme ça, sans rien lâcher de son propre style et d'en faire un, de l'enrichir, pour le coup énormément.
Voilà, joli compliment, Émile Bravo.
Merci beaucoup.
Tous les amateurs de bande dessinée attendaient le point de vue d'André Juillard, il faut savoir, parce que c'est quand même la référence de la BD, l'une des grandes références de la BD francophone, André. Et il nous parle de Spirou, ici, dans cette émission. Merci, et merci pour Émile.
Merci.
Audrey Dana, arrêtez de dessiner sur la table.
Ah bah oui, mais alors là, non.
Il y a des dessins partout, déjà.
C'est vos ondes de dessinateurs qui débordent sur moi, et bon, voilà, c'est un appel.
Bon, merci beaucoup, Émile. Merci. Spirou, l'espoir malgré tout, première partie chez Dupuis, et double 7 chez Dargaud. Merci à vous, messieurs. Bon festival d'Angoulême. À bientôt.
Merci.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici la chanteuse québécoise Bérise avec une magnifique reprise de Diane Tell que vous allez tous reconnaître.
C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour.
Bérise qui reprend Si j'étais un homme, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram. Abonnez-vous à Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Étienne Bertin et Fabrice Lègle, avec Sacha Trop, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Techer en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons donc à Haïti, à Port-au-Prince, en déambulation. Et nous serons aussi en plateau avec Philippe Besson et Mélanie Chapuis. Bonne semaine, bon week-end à tous.